Ça doit être toute une jonglerie, être une journée sur deux en ligne. Ça prend beaucoup de dévouement. Alors, puisque Jade est en ligne ce matin, tu la salues de vive voix de ma part. D'accord, alors on va prier. Que Dieu puisse bénir cette parole. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Bonjour à la sœur Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Alors prions pour débuter. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci pour cette occasion encore, Seigneur, que tu nous donnes de partager ces instants pour scruter ta parole et être béni, enrichi et fortifié par elle. Nous prions qu'effectivement elle puisse trouver un terrain qui a été dûment préparé pour recevoir, Seigneur, adéquatement cette parole, afin, Seigneur, qu'elle puisse y croître, s'y développer, être arrosée par l'onction de ton esprit et porter assurément un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis chacune des personnes qui se connectent à nous ce matin, de près, de loin, au Québec ou ailleurs, que ta grâce, que ton onction déferle dans chacun de nos domiciles, dans tout endroit où on s'assoit pour prendre ces quelques instants à étudier ta parole. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le tout précieux nom et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous les versets qui nous servent de méditation ce matin. On est maintenant rendu au verset 35 à 38, toujours dans Lévitique. Et cette semaine, on parle du rachat. Donc comment quand quelqu'un était endetté et qu'il devait vendre ses propriétés ou voire même sa propre personne, comment on secourait cette personne. Et vous allez voir que plus on avance cette semaine, plus on voit une gradation au niveau de l'appauvrissement ou de la difficulté du frère. Et je vais vous faire remarquer un petit terme tout à l'heure. Donc dans Lévitique, au chapitre 25, je lis pour vous le verset 35 à 38. Voilà. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Alors je répète ces versets. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu. Et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. J'enlève les lunettes parce que sinon ça fait reflet avec le projecteur et ça peut être désagréable pour vous. La première section de phrase qu'on aimerait étudier va nous montrer qu'il y a une progression effectivement dans la difficulté que notre frère peut rencontrer. Hier, on disait si ton frère devient pauvre et qu'il vende une portion de sa propriété. Donc, on se rendait compte hier que parfois, oui, on passe par des difficultés, mais il nous reste encore assez de subsistance pour pallier à la situation, voire même corriger la situation, puisque la Bible nous disait que ce frère-là pouvait assurément aussi trouver par lui-même le secours dont il avait besoin s'il n'y avait pas de proches parents pour le soutenir. Ici, on pousse un peu plus loin. On dit, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse, le terme pauvre qu'on a déjà étudié hier, le terme mouk, M-U-W-K, M-U-W-K, qui veut dire être bas, devenir pauvre, être déprimé ou être pauvre. Le mot main, on l'a étudié hier sous un autre synonyme. C'était le terme lui-même. Céder lui-même. Et c'était le terme yad. Mais dans cette traduction d'hier, on disait que ça voulait dire aussi le mot main. Pourquoi? Parce qu'on le revoyait aujourd'hui. La main est symbole de force, symbole de puissance, symbole d'autorité, mais c'est aussi un symbole avec deux images assez fortes, celle de l'axe d'une roue, donc ce qui permet à un char, et là on parle du char romain, non pas de la voiture, mais dans une voiture, il y a aussi un axe pour les roues, c'est ce qui permet aux roues de se mouvoir en même temps, d'être actionné en même temps, ce qui permet à la roue d'entrer en fonction. Donc, il y a cette image de yad qui veut dire l'axe de la roue. Et aussi, comme on le disait hier et on l'a vu il y a quelques semaines dans un autre texte, le tenon dans une mortaise, cette petite pièce de bois ou de métal qu'on rentre dans des orifices de deux partie d'un meuble ou d'une construction et qui permet de sceller ensemble ces deux parties de bois pour qu'elles ne puissent pas être dissociées. Mais ça permet à ce que ce bois puisse servir et venir à être le meuble qu'il est supposé être. Fléchir, le terme mot, M-O-W-T, fléchir, M-O-W-T, qui nous parle de trembler, de tomber, d'être délogé, donc avoir une place puis être délogé de cette place, être disloqué, donc défaire une jointure, tituber, donc qui fonctionne avec à-coups, et faiblir. Alors, ce qu'on est en train de dire ici dans ce texte, c'est que après que le frère soit passé par une période où il devait se dissocier d'une partie de sa propriété. La Bible nous dit que ça arrive parfois que on pousse encore plus loin cette situation difficile et que maintenant notre main vienne à fléchir. Notre main vienne à fléchir veut donc dire que on perd la capacité à fonctionner. On perd la capacité à faire mouvoir les roues, à être l'axe des roues. On perd la capacité à joindre les différentes sections de notre vie. Et ça, je crois que ça peut être représentatif, oui, d'une difficulté financière, mais ça peut être aussi représentatif de n'importe quelle situation de nos vies dans lesquelles on passe par un moment où on n'est plus capable, on n'a plus la capacité de fonctionner. Alors la Bible nous dit que lorsque une telle situation arrive, il y a encore là de l'espoir et il y a encore un secours qui doit être apporté au frère qui n'arrive plus à fonctionner comme il devrait. On rentrera pas dans les exemples et puis dans les mises en pratique de que pourrait être une situation dans laquelle la personne ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que le Seigneur le règle assez rapidement. Il dit: si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, près de toi. Ça veut donc dire que tu vois la chose. Tu observes que la main se met à fléchir. Est-ce que la main est complètement disloquée? Est-ce que la main est simplement pas aussi forte qu'avant? Est-ce que la main n'est plus capable des mouvements qu'elle faisait avant? Ça peut être discutable. Chose certaine, c'est que cette main vient à se faiblir, à s'affaiblir, vient à fléchir près de toi. La loi du rachat, c'est aussi l'interdiction de détourner le regard ou de fermer les yeux. Parce que c'est près de toi, tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu. Alors le secours, je le donne quand? Est-ce que le secours, je le donne tout simplement quand je crois que la personne ne peut plus se débrouiller par elle-même? Ici, la parole de Dieu est beaucoup plus claire et beaucoup plus ample que cela. On ne nous parle pas que la personne soit capable ou non de voir et de faire face à la situation. La Bible ne nous dit même pas que la personne soit d'accord ou pas de notre aide. La Bible dit, si tu vois ton frère dont la main se met à fléchir près de toi, alors tu le soutiendras, alors tu le secourras. Et il nous dit, un peu plus loin, afin qu'il vive avec toi. Tu vas le secourir pour qu'il puisse vivre avec toi. Donc la première notion de ce matin, c'est que la loi du rachat, c'est aussi une interdiction à se détourner du besoin de notre frère, une interdiction de détourner le regard, une interdiction de fermer les yeux, foncièrement une interdiction de faire semblant de ne pas avoir vu que notre frère est en besoin. Si on voit que notre frère est en besoin, nous avons ce devoir en tant que croyant, en tant que frère dans le corps de Christ, d'intervenir. Et la Bible va pousser même plus loin. La Bible va dire, si un étranger qui séjourne chez toi, ça lui arrive aussi, tu dois prendre soin de lui. Alors pour ceux qui voudraient simplement prendre soin de ceux qui sont proches d'eux, de leur co-sanguin, donc de leurs frères, de leurs sœurs, de la fratrie, de la famille immédiate, de ceux qui partagent même leur foi, la Bible dit, s'il y a un étranger qui habite dans ton pays et à qui ça se passe, tu le soutiendras aussi afin qu'il vive avec toi. Donc c'est important de savoir que le devoir de soutien, le devoir de grâce, le devoir de générosité du chrétien doit s'exercer non seulement envers le peuple de Dieu, mais aussi envers tout un chacun, envers notre prochain. Il est vrai qu'il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous dit « Faites du bien à tous et surtout aux frères en la foi ». Donc, oui, les frères en la foi, on a besoin, mais la Bible ne dit pas que c'est limité à eux. Ça englobe aussi l'ensemble de nos prochains. Le deuxième point qu'on voit ici, c'est que nous avons le devoir de soutenir celui qui est en difficulté. Le premier point, c'était que je n'ai pas le droit de détourner le regard, je n'ai pas le droit de faire semblant de ne pas savoir, je n'ai pas le droit de fermer les yeux aux besoins de mon frère, mais de surcroît à avoir vu le besoin, j'ai donc le devoir aussi de le soutenir. La Bible nous dit ici, si ça se passe, tu le soutiendras. Il ne nous parle pas d'une probabilité, d'une option, d'un choix. Il nous dit, si ça se passe, si ton frère effectivement vient fléchir la main, tu le soutiendras. C'est donc un ordre de Dieu à Moïse pour l'ensemble du peuple. Et pour nous, on est partie prenante de cet ordre-là aussi. On ne peut pas fermer les yeux sur notre frère, mais de surcroît à voir la situation, il est impérial pour nous tous que nous puissions intervenir, que nous puissions nous mobiliser pour soutenir notre frère. Ce passage va aussi nous dire, pour que ton frère vive avec toi. Le terme « vivre », c'est le terme, j'ai d'abord parlé de soutenir, j'ai oublié de vous donner le terme. Soutenir, c'est le terme chazak, C-H-A-Z-A-Q. Je rappelle, chazak, C-H-A-Z-A-Q, qui veut dire fortifier, surmonter, affermir, encourager, élever quelqu'un. Donc, c'est l'œuvre à laquelle toi et moi, on est appelés, donc d'être des agents pour fortifier, pour aider à surmonter, pour affermir, pour encourager et pour élever quelqu'un qui était bas. On se rappelle la définition de celui qui est pauvre, on disait que c'est celui qui est bas ou qui est en devenir d'être bas. Et c'est de notre devoir de réélever, relever la personne. Troisième point, donc pour que il puisse vivre avec toi, le terme vivre, c'est le terme shayach, shayach, C-H-A-Y-A-H, je répète, C-H-A-Y-A-H, qui veut dire préserver la vie. Donc quelqu'un qui est en train de mourir et à qui on préserve la vie, qu'on maintient en vie. Ça veut dire aussi vivifier. Donc ça veut dire que je ne permets pas simplement qu'il reste dans l'état agonisant dans lequel il est, je lui insuffle de la vie. De surcroît à cela, ça veut dire assurer la vie. Donc je protège sa vie. Non seulement je ne permets pas qu'il meure, non seulement je le ramène à un niveau de vie plus élevé, mais de surcroît à cela, j'assure sa vie. Donc j'assure une protection pour mon frère. Et je restaure sa vie dans le sens, je le ramène à expérimenter, à vivre pleinement la vie. La loi du rachat a donc pour but d'éviter la mort de notre frère. Si l'Église n'intervient pas, si le corps de Christ en fait n'intervient pas dans le peuple d'Israël, si le peuple, si les proches parents, mais l'ensemble du peuple ne se mobilisait pas pour prendre soin de celui qui était en difficulté, on avait cette pensée qu'on était en train de le laisser agoniser et mourir. Il est donc important pour nous de savoir que nous n'avons pas le droit de laisser quelqu'un dans son problème. Nous n'avons pas le droit de laisser un frère dans son problème. Nous n'avons pas le droit de nous dire, ben, il se débrouillera, c'est lui qui l'a cherché, il n'aura qu'à faire face à la situation. Il est du devoir en tant que croyant, d'apporter un soutien. Je rappelle, on ne parle pas ici que d'une question financière, bien que très souvent, beaucoup de nos tracas soient liés à une question financière, mais ça va bien au-delà de cela. Quand on voit quelqu'un qui est en train de faiblir, quand on voit quelqu'un qui n'est plus capable de fonctionner dans sa vie chrétienne, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est plus capable d'opérer comme il opérait autrefois, pour l'œuvre de Dieu, on voit qu'il y a un relâchement, on voit qu'il y a peut-être des choses qui ont été permises dans son existence, qui sont maintenant des freins, peut-être des blessures qu'il a eues, peut-être tout simplement des craintes, une incertitude par rapport à demain. Il est du devoir de nous en tant que peuple de Dieu, de nous en tant que famille, devoir ramener à la vie notre frère qui est peut-être en train d'agoniser, de ramener un sentiment de vie, un goût de vivre, à une anticipation de la vie, d'aider notre frère ainsi. Enfin, on nous dit afin qu'il vive avec toi. Donc la loi du rachat vise à ramener mon frère afin qu'il puisse pleinement vivre au sein du peuple de Dieu. Lorsque Moïse était en train de dire, ou lorsque Dieu disait à Moïse de prendre soin de l'ensemble du peuple, qu'on puisse se soutenir les uns les autres, afin qu'ils vivent avec toi ou auprès de toi, on était en train de dire, il faut que l'ensemble du peuple de Dieu puisse bien vivre dans le peuple de Dieu, puisse bien vivre la vie communautaire, la vie fraternelle, la vie familiale que représente le peuple de Dieu. C'est donc la loi du rachat, l'occasion pour nous de faire ensemble en sorte que toute partie du peuple de Dieu, toute composante humaine du peuple de Dieu puisse pleinement fonctionner au sein du peuple de Dieu. Rappelons-nous cette image qu'on nous donne dans le Nouveau Testament concernant l'Église. Et on nous dit que nous sommes tous des membres du corps de Christ. Ça veut donc dire que certains sont le petit doigt, mais d'autres sont la main. Et la main permet de relier le petit doigt à l'avant-bras. Mais l'avant-bras a aussi un coude. Et ce coude-là permet de relier le doigt, la main, le poignet, l'avant-bras au biceps, donc au restant du bras. Même chose pour l'épaule ou la clavicule qui permet de relier chacune des parties de mon bras droit au restant de mon corps. Nous avons besoin tous des uns et des autres. Et c'est cette image qui existe avec le synonyme ou l'illustration d'un corps humain dans le Nouveau Testament, mais c'était cette même pensée qui habitait le peuple d'Israël, particulièrement dans ce verset, lorsqu'on disait « afin qu'il puisse vivre avec toi », c'était donc l'idée que lui aussi, composante du peuple d'Israël, composante de la nation juive, puisse pleinement vivre avec ses frères, avec ses sœurs au sein de la nation. Donc, on vient de voir quatre points importants. La loi du rachat, c'est l'interdiction de détourner le regard ou de fermer les yeux sur le besoin ou sur la situation de mon frère. La loi du rachat, c'est le devoir de soutenir celui qui est en difficulté. Non seulement je le vois, mais je suis poussé à le soutenir. La loi du rachat aussi pour but d'éviter la mort de mon frère, sachant que si je ne fais pas quelque chose, mon frère s'avance inéluctablement vers la mort. Et enfin, la loi du rachat vise à ramener notre frère à pleinement vivre au sein du peuple de Dieu. À travers ces derniers mois, on a vu, notamment à travers les bénédictions matinales, mais aussi à travers les différentes connexions qu'on a pu avoir via Internet, on a vu des gens qui avaient connu l'Église, qui s'étaient éloignés et qui, à travers nos messages Internet, reviennent en contact avec l'Église, reviennent en contact avec Christ, reprennent des engagements avec le Seigneur. Et pour nous, c'est aussi l'occasion de veiller à ce que ces personnes qui reviennent vers l'Église et vers le corps de Christ, qu'ils puissent effectivement reprendre une vie adéquate, une vie fortifiée, une vie, et ça va être redondant, vitalisée et vivifiée au sein du corps de Christ, afin que les propos, les objectifs que Dieu avait initialement pour ces personnes puissent effectivement servir de nouveau pour l'avancement du peuple de Dieu. Dans le verset 36 et 37, on va nous parler de la notion du prêt d'argent et du prêt de vivre, donc des denrées alimentaires ou, de surcroît à cela, des outils qui pouvaient servir à cultiver un champ. Et ici, Dieu va dire à Moïse, lorsque vous allez faire des prêts, lorsque tu prêteras ton argent, tu prêteras cet argent-là sans intérêt. Et concernant tes vivres, sans frais d'usure. Les intérêts, c'est le terme néchek. N-E-S-H-E-K. Je répète, néchek, intérêt, N-E-S-H-E-K, qui veut dire un gain, une dividende ou une commission. C'est cette idée que si je prête de l'argent, je ne peux pas dire à celui que je vais prêter, à qui je vais prêter, je veux que tu me le rendes avec 10%. Donc, 10% d'intérêt par année. Donc, si je te prête 100$, je m'attends à ce que tu me le rendes avec un 10%, avec un 10$ de plus. La Bible va dire, lorsque tu prêtes à ton frère, tu prêtes sans intérêt. Tu prêtes 100$, le remboursement est de 100$, point à la ligne. Mais de surcroît à cela, il va parler aussi de l'usure concernant les vivres ou concernant les outils. Le terme usure, c'est le terme marbiyit, qui s'écrit M-A-R-B-I-Y-T-H. Je répète, marbiyit, M-A-R-B-I-Y-T-H. Et ici, il y a deux pensées dans ce marbiyit. Il y a premièrement charger une dépréciation. Disons que c'est un outil que tu prêtes, une pioche et puis un pieu pour casser de la roche. Et tu dis, je te le prête, c'est neuf. Quand tu me le rends, c'est usagé. Donc, je vais te charger des frais parce que cette chose-là est maintenant usagée. La Bible va dire, tu ne prêteras pas avec usure, tu ne chargeras pas l'usure. Tu l'as prêté de la manière que ça te revient comme ça, point à la ligne. Mais la deuxième notion de marbit, qui va aussi avec le terme usure, mais c'est moins usuel en français, peut-être un peu plus en anglais, usure, en fait, c'est de là qu'on tire le terme usuraire. Et c'est quand tu prends, lorsque tu fais un prêt, et c'est illégal, lorsque tu fais un prêt et qu'on te demande de le rembourser avec un taux d'intérêt usuraire. En québécois, je me rappelle plus comment on dit en France, au Québec, on appelle ça des Shylock. Ceux qui sont d'origine ici, vous savez de quoi je parle. Ce sont ces prêteurs d'un montant d'argent à un taux qui est très, très, très élevé et qui est pratiquement impossible à rembourser. Donc, ces gens te prêtent avec un prêt, avec un taux usuraire qui fait en sorte que c'est plus de l'abus qu'autre chose. Et c'est illégal au niveau de la loi. Et au niveau de la loi de Dieu, c'était aussi illégal. On ne voulait pas qu'on puisse calculer une usure qui soit outrefaite. On ne voulait pas qu'on puisse se placer dans une situation où mettre sur la dette de quelqu'un un taux d'intérêt qui serait surfait lui aussi. Donc, il y avait cette pensée dans Marbit qui était non seulement de ne pas charger la dépréciation, mais aussi de ne pas charger un taux d'intérêt qui devenait tout simplement un taux d'intérêt usuraire. Le taux d'intérêt dans le royaume de Dieu devrait être de zéro. Je prête 100$, on me rembourse 100$, point à la ligne. Pourquoi Dieu va-t-il mettre cela en place? Tout d'abord, pour qu'on ne profite pas du malheur de son frère comme une occasion de s'enrichir. Foncièrement, lorsqu'on y pense, toutes ces compagnies de crédit qui sont affichées à droite et à gauche et qui souvent disent « mais si vous avez besoin de 100$, contactez-nous. Si vous avez besoin de 1000$, contactez-nous. On a une facilité à prêter. » Foncièrement, ces compagnies-là, qui visent-elles? Elles visent celui qui est pauvre. Celui qui n'a besoin que d'emprunter 1000$, c'est parce qu'il ne lui reste rien. Le riche va peut-être avoir besoin d'emprunter des millions de dollars pour faire un projet, mais il est capable de vivre sans ces millions-là. On va lui prêter parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais quand on doit prêter un petit montant, et croyez-moi, parfois, pour nous, 1000$, c'est énorme, et je sais de quoi je parle, mais pour une institution bancaire, 1000$, c'est strictement rien. Alors, parfois, ces petits prêts se font en profitant du malheur des gens. En fait, le taux d'intérêt qu'on va leur charger est déjà difficile à rembourser puisque ce 1000$ est quelque chose de vital. Donc, on ne profite pas du malheur de son frère comme une occasion de s'enrichir. Dans la tradition juive, on ne devait pas prêter pour s'enrichir, on prêtait simplement pour secourir. Et je revenais après avoir secouru et reçu le retour de mon prêt, tout simplement avec le même montant que j'avais initialement. Si quelqu'un devait récompenser, ça serait Dieu qui le ferait. Deuxième pensée dans cette question de Mirbit, on n'offre pas un soutien dans l'objectif d'un profit personnel. Il y a des gens qui prêtent dans l'objectif d'eux. Donc, un, on ne profite pas du malheur. Et deux, je n'aide pas dans l'objectif d'un profit personnel. Je ne suis pas débonnaire en me disant qu'est-ce que ça va me rapporter. Je ne pratique pas la loi du rachat en me demandant qu'est-ce que ça va me rapporter à moi. Bibliquement parlant, au niveau pécunier, ça ne rapportait strictement rien parce que tu n'avais pas le droit d'appliquer des frais d'usure, tu n'avais pas le droit d'appliquer un taux d'intérêt. Donc, la seule raison pour laquelle tu faisais le prêt, la seule raison pour laquelle tu octroyais un prêt et que tu accordais un soutien, c'était en fait tout simplement pour soutenir ton frère. Donc, toute la notion pour laquelle tu faisais la bonne action était une bonne intention et non pas qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? Il y a des gens qui disent, ah oui, je vais prêter à lui parce que ça va me retourner, puis il va me rendre l'appareil par la suite. T'attendais même pas cela. Tu savais que oui, si tu passais par un moment difficile, il y avait des lois qui étaient inscrites dans la parole de Dieu, dans la doctrine qui était enseignée au peuple d'Israël. Il y avait des choses qui faisaient que ça allait te retourner, que ça allait, qu'on allait te secourir, qu'on allait te soutenir aussi. Mais lorsque toi, tu soutenais, c'était tout simplement pour faire preuve d'altruisme, comme on devrait tous le faire encore aujourd'hui. Et il va terminer, et on va terminer avec cela aussi ce matin, au verset 38, où il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » C'est quand même particulier que ce soit associé à cet enseignement sur le rachat et à cet enseignement sur « tu prêtes sans intérêt, tu prêtes sans frais d'usure ». À cet enseignement sur si tu vois ton frère qui est en train de tomber, tu ne peux pas détourner le regard. Si tu vois ton frère qui n'est pas capable de fonctionner, tu ne peux pas faire semblant que tu n'as pas vu. Et il va rappeler à la conclusion de cette portion d'enseignement, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. » Notre soutien, comme premier point ici, notre soutien est basé sur le souvenir de la grâce que nous avons aussi reçu. Lorsque nous aidons quelqu'un, nous nous rappelons aussi que Christ nous a aidés. Lorsque nous soutenons notre frère, nous devons être habités par le fait que Christ est aussi venu à notre secours. Lorsque nous volons au secours de notre frère, c'est parce que Christ a accepté lui aussi de nous secourir. Ayant été ému, ayant été touché, ayant été renouvelé, ayant été vivifié, ramené à la vie, ressuscité par la grâce de Dieu, je veille aussi à ramener mon frère à la vie. Je veille aussi à ramener mon frère à une pleine expérimentation de la vie avec Christ et de la vie au sein du peuple de Dieu. Donc ça, c'est la première pensée qui doit nous habiter lorsqu'on apporte notre soutien, se rappeler que la grâce nous a aussi été faite à nous. Deuxièmement, c'est basé sur le fait qu'on est enfant de Dieu. Je soutiens mon frère parce que je suis enfant de Dieu. Je ne soutiens pas mon frère tout simplement parce que c'est une bonne chose à faire, tout simplement parce que c'est agréable à faire, tout simplement parce que ça va me rapporter quelque chose ou tout simplement parce que ça va me bénéficier par la suite, tout simplement parce que ça fait partie d'avoir une bonne réputation. Je secours mon frère parce que je suis enfant de Dieu. Je ne devrais pas être capable de dissocier le secours et le statut d'enfant de Dieu. Si je secours, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je suis donc porté à l'altruisme et au secours. L'enfant de Dieu ne devrait pas être égoïste. L'enfant de Dieu ne devrait pas être avare. L'enfant de Dieu ne devrait pas être radin, gripsou. L'enfant de Dieu devrait être débonnaire, donc qui donne beaucoup de bonté, qui fait preuve de beaucoup de bonté. L'enfant de Dieu devrait être généreux, donc il n'a pas peur de se répandre et de donner autour de lui. L'enfant de Dieu ne devrait pas être égoïste, égocentrique, centré sur lui-même. L'enfant de Dieu devrait être porté sur Dieu et l'enfant de Dieu devrait être porté sur ses frères. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'après avoir cette descente dans notre fonctionnement au départ comme étant « j'ai été obligé de perdre un peu de ce que j'avais, mais je suis encore capable de fonctionner », à un moment donné, on arrive et on voit notre frère qui n'est plus capable de fonctionner ou qui ne fonctionne plus de façon aussi optimale. Et face à cela, on ne peut pas fermer les yeux. Face à cela, on ne peut pas détourner le regard. On a vu que la loi du rachat, c'était donc une interdiction de détourner le regard, une interdiction de ne pas soutenir notre frère. C'est un devoir de soutenir nos frères, que ça a pour but d'éviter la mort de notre frère et que nous veillons aussi à ramener notre frère dans un bon fonctionnement, ramener notre frère dans un fonctionnement optimal au sein du peuple de Dieu. Enfin, on a vu qu'on ne profite pas de la situation de notre frère comme une occasion de s'enrichir et on n'aide pas avec la pensée, le questionnement, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? On aide parce que nous-mêmes, nous avons été aidés, nous apportons soutien parce que nous-mêmes avons été soutenus, nous secourons ceux qui sont à nos côtés parce que nous-mêmes, nous avons été secourus par Christ. Et nous faisons ça parce que en tant qu'enfant de Dieu, c'est la chose normale à faire. Rappelons-nous la définition d'hier du frère. Être un proche parent, le parent voulait dire qu'il était un rédempteur. Ça allait dans la nature même de notre statut d'enfant de Dieu, de veiller à la rédemption, au rachat, à la rémission de notre frère, de notre sœur. Alors prions pour compléter cet enseignement de ce matin. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette occasion encore que tu nous donnes de sonder nos vies, de sonder nos pratiques et de voir Seigneur si effectivement nous faisons ce que nous faisons par grâce, par amour, sans attente, sans espérer quoi que ce soit, mais tout simplement parce que l'amour que le Père a manifesté envers nous se manifeste aussi à travers nous. Nous avons tellement été remplis de la grâce de Dieu que nous faisons grâce aussi à ceux qui nous entourent. Nous avons tellement été secourus par Dieu que nous ne pouvons faire autrement que de secourir ceux qui sont autour de nous. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais avec nous. Merci pour ce reality check, cette occasion Seigneur de sonder correctement nos vies et cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui parce qu'on a le souffle de vie de faire les choses correctement pour toi et devant toi et au sein de ton peuple. Alors bénis mon frère, bénis ma sœur, permets-nous ce matin, permets-nous aujourd'hui de voler au secours d'un bien-aimé et de faire la différence et de nous assurer que ce temps d'agonie dans lequel il peut être en train de passer vienne à un terme par l'assistance que tu nous donneras, Seigneur, de prêter à ce bien-aimé. Alors que ta grâce nous soutienne, que ta grâce nous fortifie et que la même pensée qui t'habitait nous habite aussi en nous, Seigneur, de soutenir et de prendre soin de nos bien-aimés. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, quelques salutations. Je vais voir si je peux repérer les dernières personnes que j'ai saluées tout à l'heure. Je remonte un peu. Je crois que j'ai salué la sœur Rachel, mais je ne suis pas sûr. Donc, je salue la sœur Rachel et puis les sœurs qui sont connectées avec elle, Auxilia, Mona, Chantal. Et s'il y en a d'autres, soyez bénis, mes sœurs. On salue... est-ce que j'avais salué la sœur Charlotte? Je ne m'en rappelle pas. Alors, bonjour à la sœur Charlotte. Bonjour à Rosie. Bonjour à Farley, à Marie-André. Bonjour à Maggie. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Nadège. Bonjour à Yaoi. Bonjour à la sœur Teresa. Et je crois que c'est tout pour ce matin, de ce que je peux voir toutefois. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Soyez de bons instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur. Et puis, on se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio à 19h. Sinon, on sera de retour demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale à 8h30. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.